L'universalité, l'universalité de la pensée philosophique du XXe siècle, l'universalité de la pensée philosophique du XXe siècle repose sur la controverse existante entre les individualités d'écriture et l'instinct surréaliste sous-jacent chez la plupart des auteurs, tout en respectant la linéarité de la pensée du monde occidental.
Oh la vache!
Philotage, la philosophie à tous les âges.
La philosophie, ça devrait plutôt être une ouverture sur le monde, se dire, voilà, la philosophie, c'est quelque chose d'ouvert, vous pouvez avoir toutes les opinions, donc profitez-en, dites ce que vous voulez. Alors, est-ce que vous aimez ça, vous, la philosophie ?
J'aime parce que j'aime bien les histoires que tu racontes, j'aime bien parler, et surtout qu'on parle dans le micro.
Philotage, la philosophie à tous les âges. Bonjour et bienvenue sur Radio Sainte-Afrique pour Philotage, l'émission qui fait philosopher à tout âge. Au menu ce mois-ci, sur le thème de la désobéissance, le goûter philo avec mes petits philosophes du mercredi. Je rappelle d'ailleurs aux parents qui nous écoutent que les goûters philo sont gratuits, ont lieu tous les mercredis à 15h, hors vacances scolaires, au lieu dit, et sont ouverts à tous dès 4 ans. Également au sommaire, une interview de Christine Tellen, faucheuse volontaire, qui nous parlera de sa démarche dans le cadre de la désobéissance civique. Alors c'est quoi désobéir ? Pourquoi refuser de suivre un ordre, de suivre la loi ? Mais peut-être qu'on prend le problème par le mauvais bout. C'est quoi obéir ? C'est suivre les ordres, suivre la loi. Tous les ordres, toutes les lois, y compris ceux qui nous diraient d'aller tuer le type qui porte l'autre uniforme, par exemple. Mais qui est responsable ensuite de la mort de l'autre type ? Celui qui a donné l'ordre ou celui qui y a obéi ? L'obéissance est une démarche volontaire et libre, qui se distingue de la simple soumission. Obéir, c'est donc décider, sciemment et en toute connaissance de cause, d'adhérer à un ordre, à une loi, qui devient donc notre loi. L'obéissance ne s'oppose donc pas, bien au contraire, à la liberté. Et qui dit liberté, dit responsabilité. Devant ces questionnements, certains préfèrent désobéir, ce qui, dans ce cas, revient à déserter.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Désobéir, quand cela est fait non par intérêt personnel ou recherche d'un profit, mais au nom d'un idéal moral, est un véritable acte de courage et d'héroïsme. À l'image de ce déserteur qui, loin d'être un lâche, représente au contraire ce qu'il y a de bon et de profondément sensible et juste chez l'être humain. Ce qu'il y a de courageux à préférer être tué plutôt que de tuer soi-même. À préférer se faire victime plutôt que bourreau. Le tout en musique et sur les paroles merveilleuses de Boris Vian, vrai et beau à la fois. Désobéir peut donc être un véritable acte héroïque, oui, mais pas toujours. Désobéir, c'est aussi parfois, souvent, enfreindre la loi, pour diverses et confuses raisons. Mais alors, comment faire la différence entre la désobéissance du criminel et celle du héros ? Surtout lorsqu'on l'on se met à jouer avec les mots et qu'en passant d'une bouche à l'autre, le terroriste devient résistant ou inversement. Et mes petits philosophes du mercredi dans tout ça, eux à qui l'on répète souvent qu'il faut obéir à leurs parents, à la maîtresse. Comment comprennent-ils cette obéissance que l'on exige d'eux ? Doudou Lapin, à toi. Alors aujourd'hui, le thème, c'est la désobéissance. Et il est arrivé quelque chose à une copine de Sophia. Sophia a une amie qui habite dans la même rue qu'elle et avec qui elle va jouer le mercredi après-midi ou le samedi. Et cette amie, son papa, il est allé en prison. Alors elle était triste, hein, forcément, de plus voir son papa. Et Sophia, ça lui a posé des questions quand même. Pourquoi est-ce que le papa de sa copine Annie est allé en prison ? Elle a posé la question à sa maman. Sa maman, elle lui a dit, il a désobéi à la loi. Il a fait une bêtise, alors du coup il est puni, il va en prison. Jusque-là, Sophia, elle comprenait. Elle aussi d'ailleurs, quand elle fait des bêtises, quand elle désobéit à ce que lui a demandé sa maman ou sa maîtresse, elle aussi, elle est punie. Donc, jusque-là, ça allait. Et puis, la maîtresse lui a fait apprendre un poème. Un poème de Boris Vian qui parle d'un monsieur qui ne veut pas obéir parce qu'on lui demande d'aller à la guerre. Et lui, il veut pas tuer des gens. Et alors, il désobéit. Mais lui, il va pas en prison et on fait apprendre son poème aux enfants. Alors, elle s'est demandé, Sophia, et Doudou Lapin avec elle, parce que vous le connaissez, c'est un lapin curieux, est-ce que c'est toujours mal de désobéir ? Ça veut dire quoi, déjà, désobéir ?
Ne pas faire ce qu'il faut faire.
Et c'est qui dit ce qu'il faut faire ?
Les parents.
Et aux parents, qui c'est qui leur dit ce qu'il faut faire ?
Le maire.
Alors, je continue. Et au maire, hein, qui c'est qui lui dit ?
Le président.
Et au président ?
Le roi.
Ouh, là on s'embrouille. Alors, comment on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire ? Qui sait, par exemple, le papa d'Annie dans l'histoire, hein, de Sophia, pourquoi est-ce qu'il est allé en prison ?
Parce qu'il a désobéi.
Et Sophia, elle dit aussi quand elle est punie, quand elle fait une bêtise, on la punit parce qu'elle a désobéi. Et c'est mal, on lui dit il faut être obéissante. Mais c'est tout le temps mal de désobéir ? Est-ce qu'on peut pas désobéir pour des bonnes raisons ?
Si, moi une fois ma mamie, il y avait des cerises mûres mais elle voulait pas, elle a dit On voulait pas qu'on en mange parce que, en fait, elle voulait pas en cueillir. Mais nous, on en a mangé parce qu'on avait faim.
Alors, tu as désobéi à quelque chose qu'elle t'avait dit. Et pourquoi tu as désobéi ?
Parce que les cerises, elles étaient mûres.
Et du coup, quand on désobéit, des fois, c'est que on n'a pas envie d'obéir. Pourquoi on n'a pas envie ? Pourquoi tu n'avais pas envie d'obéir à ta mamie, par exemple, ce jour-là ?
Peut-être qu'elle n'avait pas envie d'obéir à sa mamie parce qu'elle trouvait que... Enfin, elle ne pouvait pas s'en empêcher d'en manger.
C'est une bonne raison, ça, ou c'est une mauvaise ? Vous seriez à la place de la mamie. Vous l'auriez punie ou pas ?
Mais oui, moi je l'aurais punie.
Et dans le poème qu'a appris Sophia à l'école, on parle d'un monsieur à qui on donne un ordre, il faut qu'il aille à la guerre. Et lui, il n'a pas envie d'y aller à la guerre parce qu'il ne veut pas tuer des gens. Et du coup, il désobéit. Est-ce que là, vous pensez que c'est mal qu'il désobéisse hein ?
Non, c'est pas mal qu'il désobéisse parce que c'est lui qui n'a pas envie d'obéir.
Et à la guerre, on peut se tuer, donc il y a une raison qu'il n'ait pas envie.
Mais à la guerre, c'est pas du tout bien parce qu'après, s'il y a des morts et que c'est quelqu'un de la famille, on peut pleurer. Hein, c'est un peu triste pour les gens de la famille.
Aussi, la guerre, c'est pas bien parce que peut-être que quelqu'un peut nous tuer.
Et pourtant, il y avait une loi qui lui disait que quand il avait reçu la lettre qui lui disait il faut aller à la guerre, la loi elle disait il faut y aller. C'était un ordre et il a désobéi. Alors, est-ce que c'était la loi qui avait tort ? Est-ce que la loi elle était mauvaise ?
Oui, elle était mauvaise parce que la guerre c'est pas bien, donc c'est pour ça qu'il a pas voulu.
Les ordres qu'on reçoit ou la loi qu'on doit suivre, que ça soit la maîtresse, les parents ou quand on est adulte, bah, le président de la République par exemple qui donne des ordres, qui fait la loi. Est-ce que c'est toujours bien ce qu'ils disent ?
Des fois oui et des fois non, parce que y a des gens qui trouvent que c'est bien et d'autres non.
Alors, dans le cas du monsieur qui a écrit ce poème, qui ne voulait pas aller à la guerre, la loi, est-ce que vous pensez que cette loi qui dit qu'il faut aller se battre et qu'il faut aller à la guerre, est-ce que vous pensez que c'est une bonne loi ou une mauvaise loi ?
Une mauvaise loi. Pas parce que si on n'a pas envie de se battre, peut-être que pour ce poète, il ne voulait pas aller à la guerre parce qu'il était contre la violence.
Et dans ce cas, c'est une bonne raison de désobéir ?
Des fois, parce que s'il y a quelqu'un qui te dit dans la rue « Viens, je t'emporte quelque part », il faut lui désobéir.
Ah, ça c'est intéressant. Ça dépend de qui nous donne des ordres. Il y a des ordres qu'on devrait suivre et des ordres qu'on devrait ne pas suivre. Alors on peut aller un peu plus loin là. De qui on doit suivre les ordres et de qui on ne doit pas suivre ?
On ne doit pas suivre des gens dans la rue, mais par exemple du maire, on doit suivre.
Ceux qu'on connaît pas, on doit pas les suivre, et ceux qu'on connaît, si.
Moi, il y a des gens que je connais, pourtant ils disent des trucs pas toujours bien.
Et oui, ça c'est vrai. Alors certes, les gens qu'on connaît pas, on va pas leur obéir. Et puis c'est vrai que quand on est petit, s'il y a quelqu'un qu'on connaît pas qui nous parle dans la rue, on va pas lui obéir et on va pas le suivre. Ça, c'est normal. Mais les gens qu'on connaît, est-ce qu'on doit toujours leur obéir aussi ? Ça dépend des gens qui parlent ou ça dépend de ce qu'ils disent ?
Ça dépend de ce qu'ils disent, si on n'a pas envie de le faire ou si on a envie.
Et oui, et puis ça dépend aussi de si on trouve que c'est bien ou mal. Parce que par exemple, on dit il faut obéir aux parents ou à la maîtresse. Mais imaginons que la maîtresse, elle devient folle tout d'un coup et elle vous dit « cassez tout ». Vous allez le faire ?
Non, enfin oui.
Alors ?
Moi je dirais oui, parce que moi j'ai bien envie de casser tout dans l'école.
Alors les autres, si la maîtresse, elle, tout d'un coup, elle devient complètement folle et elle vous dit casser tout, est-ce que vous allez le faire ?
Non, parce que j'ai pas envie de le faire. Même si c'est un ordre qu'elle nous donne, et bien des fois on n'a pas envie de casser quelque chose.
Parce que c'est pas bien de tout casser. Peut-être qu'il y a des choses précieuses.
Et si la maîtresse, elle vous dit tapez celui-là, est-ce que vous allez le taper ?
Non, parce que c'est un camarade de l'école. Si on le tapait, il serait pas trop content.
Non, parce qu'on n'a pas envie qu'il nous tape, même si c'est la maîtresse qui nous le dit, on ne le fait pas.
On le fait pas parce que ça peut être un de nos copains, et ça peut être un copain de quelqu'un d'autre, et si on le tape, son copain va nous taper.
Mais si c'est quelqu'un qu'on n'aime pas, et puis que cette personne...
il n'y a pas de copain, on peut bien le taper. Hein.
Ah oui, ça dépend. Et imaginons qu'on le fasse. Ah, tu nous dis, Gerson, peut-être, hein, ça dépend. Peut-être qu'on peut peut-être se permettre de le taper si c'est quelqu'un de méchant et qu'il n'a pas de copain pour venir nous taper à leur tour. Imaginons, on le tape et il se fait très mal. Qui c'est qui est responsable du fait qu'il se soit fait très mal? C'est nous ou c'est la maîtresse qui a donné l'ordre?
Je pense que c'est nous parce que la maîtresse, même si elle nous a donné l'ordre, c'est nous qui l'en fait parce qu'on pouvait bien ne pas le faire.
C'est le directeur, puisque le directeur, il n'est pas devenu fou, mais la maîtresse, elle est devenue folle.
Et si jamais c'était le directeur qui était devenu complètement fou et qui vous donne l'ordre, c'est l'élève qui a tapé l'autre sur l'ordre de la maîtresse ou du directeur? Ou c'est la maîtresse ou le directeur qui est responsable de celui qui s'est fait mal?
C'est la faute de la maîtresse, parce qu'elle aurait dû en empêcher de qu'on se fasse taper.
Mais de nous aussi, parce que nous, si on pouvait dire, on pouvait ne pas le faire. Et comme on l'a fait, bah, c'est notre faute.
Et pour les adultes, c'est un petit peu la même chose. Dans ce poème où ce monsieur Boris Vian, il dit qu'il ne veut pas aller se battre parce qu'il ne veut pas tuer des gens. Imaginons que finalement, il change d'avis et qu'il aille se battre. Parce que, bah, après tout, c'est la loi qui lui dit qu'il faut aller à la guerre. Et à la guerre, eh ben, y a des gens qui se tuent. Et imaginons qu'il y aille à la guerre et qu'il tue quelqu'un d'autre dans le camp ennemi. Qui c'est qui est responsable de la mort de ces soldats ennemis? C'est lui qui a obéi ou c'est le général qui a dit on fait la guerre?
C'est le général qui a dit on fait la guerre.
C'est lui.
C'est lui parce qu'il était pas obligé de le faire.
Alors quelque part il était un tout petit peu obligé puisqu'il y avait une loi. Et que normalement la loi on est censé obéir. Comme quand la maîtresse elle nous dit quelque chose on est censé obéir. Et alors c'est quand même lui le responsable? Même s'il y avait une loi?
Mais c'est un peu celui qui a créé la loi.
Mais c'est les deux. Hein. C'est lui qui a voulu faire la loi et lui.
Et alors du coup, si on a quelqu'un comme ça qui donne un ordre ou qui fait une loi et que ça fait du mal, comme si la maîtresse elle vous dit de taper un copain ou qu'un général il dit on fait la guerre et on tue les autres, est-ce qu'il faut obéir à la maîtresse ou au général ou est-ce qu'il faut désobéir?
Des fois s'il nous dit de taper quelqu'un ou faire la guerre, si on est contre la violence, et bien des fois on peut ne pas le faire et désobéir, même si c'est quelqu'un qu'il faut obéir, et bien des fois on désobéit.
Il faut plutôt obéir, mais quand c'est des trucs de mal, bah faut pas le faire, on n'est pas forcé de le faire.
Oui, mais si on n'a pas compris ce qu'elle a dit, eh bien on va pas savoir si on désobéit ou si on désobéit pas.
Ah oui, c'est important ça, il faut les comprendre, les ordres hein, ou les lois. Il faut savoir ce qu'elles veulent dire, les conséquences. Donc quand la maîtresse nous dit de faire quelque chose, il faut bien comprendre. Et puis pour les adultes, quand il y a une loi qui dit qu'il faut faire quelque chose, il faut aussi bien la comprendre. Parce que si on ne comprend pas bien et qu'on obéit sans chercher à se poser de questions, c'est qui va être responsable?
Nous, parce qu'on y est allé d'un coup et puis on aurait pu réfléchir avant d'agir.
Alors du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas résumer un petit peu tout ça et dire quand est-ce qu'il faut obéir, quand est-ce qu'il faut désobéir?
Il faut obéir quand c'est quelque chose de normal. Et il faut désobéir quand on sait que c'est quelque chose de mal et que si on le fait, bah, c'est pas bien.
Comment on fait pour reconnaître si c'est quelque chose de bien ou quelque chose de mal?
Ben, on le voit si ben, il nous... Ben, il peut nous le dire, par exemple s'il vient et dit « Viens avec nous, on va te faire quelque chose », ben tu le fais pas parce que tu t'attends à quelque chose de mal.
Alors, comment on sait que par exemple quand la maîtresse elle dit « Ranger la classe ben, », il faut obéir et quand elle dit « Tape sur les copains », il faut pas le faire? C'est quoi la différence?
Ranger, c'est bien parce que moi il y aura de l'ordre dans la classe, mais après avoir tapé, bah, celui qu'on aura tapé, lui, il aura mal.
Bon alors, on fait un petit tour, et vous allez essayer de me dire quand on obéit, quand on désobéit. D'accord? Pour résumer tout ce qu'on a dit. On fait un tour?
Désobéir, c'est faire quelque chose de bien et de pas bien, parce que si on nous dit, par exemple... casser la classe ou casser des affaires, et ben que c'est quelque chose qu'on veut pas casser, et ben on le cassera pas. Et voilà.
Si on dit va prendre un stylo
ou si on dit plutôt va jeter ton stylo, on va prendre un stylo parce que jeter un stylo, on aura moins d'affaires. Hein, et si on en a un seul, on ne pourra plus écrire.
Désobéir, c'est par exemple si on n'a pas envie de taper un copain. Si on n'a pas envie de taper un copain, eh bien on ne le fait pas. Bah, même si c'est quelqu'un qui nous a donné l'ordre et qu'on connaît. Et après, obéir, c'est que on fait quelque chose qui est bien, qui ne fait pas de mal à quelqu'un.
Désobéir, c'est par exemple quelqu'un qui te dit de faire quelque chose que tu n'as pas envie et tu ne le fais pas.
Sinon, ça peut arriver de par exemple, la maîtresse, elle nous dit « tape ton copain et tu le fais ». Et puis, si elle dit « range la classe », tu le fais pas. Et bien, c'est-à-dire quand il faut désobéir, et bien on le fait. Et quand il faut pas désobéir, et bien on le fait pas.
Je pense qu'il faut désobéir quand c'est quelque chose qui peut faire du mal à quelqu'un, comme tu as dit. Et quelque chose qui n'est pas juste, qu'on sent qui est pas juste pour nous, ou qu'on sait que c'est pas... que ça va nous faire du mal, et ben il faut désobéir.
Et oui, ça c'est important parce que, alors Gerson, tu dis si on n'a pas envie, ou il y en a d'autres qui l'ont dit, si on n'a pas envie, il ne faut pas le faire. Mais si la maîtresse, elle nous dit ranger la classe, on n'a pas forcément envie de ranger la classe, c'est embêtant, c'est fatigant de ranger la classe. Pourtant, il faut quand même lui obéir. Par contre, si on nous dit taper sur un copain, qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie, il faut lui désobéir parce que c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien?
Son copain, ça peut lui faire mal et puis il peut appeler quelqu'un d'autre pour après il va lui taper et après lui qui a été tapé il peut prendre un autre qui va aller lui taper, alors ça va faire toute une chaîne.
Et donc quand ça fait du mal à quelqu'un, il faudrait pas le faire, et quand ça fait de mal à personne et que c'est utile, il faudrait le faire.
Mais si par exemple il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un alors qu'il n'y avait aucune raison, faut bien le mettre en prison même si ça lui plaît pas. Peut-être que il se dit le monsieur que même s'il fait pas la guerre, il préfère aller en prison que se battre contre quelqu'un d'autre.
Et oui, ça arrive, des gens qui des fois préfèrent aller en prison plutôt que d'obéir. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu des fois? Des gens qui vont en prison parce qu'ils n'ont pas voulu obéir. Alors, est-ce que vous en avez entendu parler des fois de ça? Des gens, mais pas forcément en France, aussi dans d'autres pays, qui des fois désobéissent et du coup ils vont en prison. Mais c'est pas parce qu'ils ont tué ou volé, c'est parce que des fois ils ont juste voulu donner leur avis. Ils ont juste voulu s'exprimer et du coup ils vont en prison. Non, vous avez jamais entendu?
Peut-être que, par exemple, un jour, y a un monsieur, il voulait pas faire la Première Guerre mondiale et puis il est allé en prison. Il préférait faire ça que de faire la guerre.
Mais il veut pas faire la Première Guerre mondiale, mais et il va en prison et il veut faire la deuxième.
Ça va être difficile. Hein.
Obéir donc, mais pas aveuglément. Sur le papier, ça roule. Puisque je suis responsable de mes actes, même s'ils sont la conséquence d'un ordre que j'ai reçu, d'une loi que j'ai suivie, je dois choisir, en toute conscience, d'obéir ou de désobéir. Sur le papier toujours, pas de souci. En vrai, ça devient un peu plus compliqué, voire parfois un brin risqué. Il me faut départager le juste de l'injuste, ce qui n'est déjà pas une mince affaire. Mais il me faut aussi, une fois cela accompli, passer de la théorie à la pratique, en bref, agir. C'est là tout le principe de la désobéissance civique. Oui, mais c'est quoi la désobéissance civique? Et si on allait demander à quelqu'un qui a été sur le terrain, quelqu'un qui a agi, qui a désobéi? Ça tombe bien, puisque dans nos jolis magnétos, nous avons l'interview de Christine Tellen, faucheuse volontaire que mon petit mari, Guillaume, alias Captain Potager, et moi-même, qui n'est pas de nom de super-héros mais j'y penserai, avant de questionner sur ses activités militantes.
Bon, bonjour à tous, donc je suis Christine Tellen, j'habite ici sur le Larzac, sur la commune de Millau, et je fais partie du mouvement désobéissance civique qui s'appelle les Faucheurs Volontaires. Donc c'est un mouvement qui consiste à essayer qu'il n'y ait pas de culture d'OGM en plein champ.
D'accord.
Donc je suis aussi agricultrice.
D'accord, merci. Et est-ce que vous pouvez peut-être définir la désobéissance civique ? Qu'est-ce que c'est désobéir, mais civiquement ?
Alors, la désobéissance civique, c'est un acte citoyen. Donc, comme ça, on le voit dans le mot, hein. Donc, ce sont des citoyens qui, à un moment de leur vie, estiment que des lois ou des arrêtés ou des mesures sont prises qui ne vont pas dans le sens du bien commun, qui ne vont pas dans le sens d'une société qui développerait plus de bien-être pour les citoyens et qui décide donc de le manifester de manière concrète par des actions, quoi. Qui ne se contente pas de le dire ou de l'écrire, mais qui passe aussi à l'acte. Donc en général, ce sont souvent des mouvements collectifs, hein, donc ce sont plusieurs personnes qui agissent ensemble dans un cadre bien défini en général. Donc par exemple, pour le mouvement des faucheurs volontaires, on a une charte qui définit bien dans quel cadre nous agissons. Nous agissons donc en plein jour et à visage découvert. C'est aussi significatif des mouvements de désobéissance civique, qu'on ne se cache pas. Donc on annonce qu'on va faire un acte de désobéissance civique et en plus on le revendique.
D'accord.
C'est ça en fait la désobéissance civique. C'est faire un acte citoyen de désobéissance par rapport à un décret, une loi, un arrêté, enfin par rapport à un événement dans la société qui ne va pas dans le sens du bien commun.
D'accord. Donc si j'ai bien compris, désobéir mais civiquement, c'est se révolter un petit peu comme nous y invite aussi la Déclaration des droits de l'homme contre une loi qui n'est pas juste.
Voilà, se révolter, mais c'est plus que ça. C'est le dire mais aussi agir, quoi, hein. Par rapport à une loi, c'est pas toujours une loi, ça peut être un décret, ça peut être, mais c'est par rapport à une orientation de la société qui ne va pas dans le sens du bien commun et d'un bien-être pour les citoyens.
D'accord, et donc une loi juste serait une loi, enfin, ou un décret, qui irait dans le sens du bien commun.
Toutes les lois ne vont pas forcément dans le sens du bien commun, mais elles ne vont pas toutes non plus à l'opposé, quoi, hein. Donc, c'est-à-dire quand il y a des lois un peu plus fortes, comme par exemple l'autorisation de faire des cultures d'OGM en plein champ, et qui mettent en péril, par exemple, tous les autres types d'agriculture, qui sont des agricultures bio et tout, à ce moment-là, on peut estimer, quand on est agriculteur, que c'est quelque chose, si on fait de l'agriculture bio en plus, et si on veut respecter l'environnement, on peut estimer que c'est pas une loi qui va dans le sens d'un mieux-être pour la société. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut rentrer en désobéissance civique. Aujourd'hui, les gens qui planteraient du Monsanto 810 auraient le droit de le faire, quoi, là, aujourd'hui, quoi. Hein.
D'accord. Ouais, donc le combat des faucheurs volontaires est loin d'être fini encore.
Il est loin d'être fini, parce que le maïs, le Monsanto 810, c'est une variété. Mais on sait qu'il y a des dizaines de variétés qui attendent à la porte. Nous agissons aussi pas rien que sur ce qui est planté en France. Nous essayons d'agir aussi sur les importations. Alors là, c'est un problème énorme, parce qu'il y a des millions de tonnes de soja transgénique qui rentrent chaque année en France, quoi. Hein. Donc le combat des faucheurs, il est bien loin d'être terminé, d'autant plus que Villemorin, que vous connaissez, qui est une boîte qui fait énormément de semences potagères et tout ça, annonce, elle, des variétés de maïs transgénique sous son étiquette pour 2014. Alors vous voyez que le combat est loin d'être terminé. Et nous, ce qu'on conteste surtout dans ces plantes-là, c'est que ce sont des plantes insecticides, quoi, la plupart. Donc c'est pas un progrès, c'est-à-dire qu'elles détruisent tous les insectes qui les approchent. Donc franchement, les apiculteurs aussi cette année montent fortement au créneau parce qu'ils risquent de voir disparaître complètement leur métier si on autorise ce type de plantes, quoi.
Ouais, ça détruit aussi bien les bons insectes comme les mauvais, quoi.
Ah ben oui, là il faut pas le tri, hein, ça détruit tout, hein. Et donc il y a des régions déjà comme au Canada ou aux États-Unis où ils ont énormément de problèmes parce qu'ils n'ont plus d'insectes pollinisateurs. Et donc, ils voient que toutes les zones où il y a des fruitiers, des vergers et compagnie, ne sont plus pollinisées et ils ont des rendements qui diminuent, voire énormes, quoi, de 50 à 60% dans les vergers parce que les arbres ne sont plus pollinisés.
Et ce combat contre les OGM, il y a une orientation écologique pour protéger la nature, mais est-ce qu'il n'a pas aussi une orientation un peu économique pour protéger les agriculteurs,
hein? C'est-à-dire que oui, il y a écologique et je dirais agricole, quoi. C'est une orientation donc pour avoir un type d'agriculture propre. Je pense que la France, elle a tout intérêt à garder quand même une agriculture sans plantes transgéniques qu'elle peut garantir pour tout ce qui est label et agriculture de qualité. On essaye aussi de développer l'agriculture biologique, donc les deux choses ne vont pas ensemble. On ne peut pas à la fois favoriser une agriculture qui respecte l'environnement et qui respecte la nature et qui est bonne pour la santé à la fois animale et à la fois humaine, et à la fois continuer à pousser une agriculture complètement industrielle qui ne tient compte d'aucun élément, quoi, qui ne voit qu'un seul résultat, c'est le rapport financier, quoi. C'est ce que ça peut rapporter, quoi.
Par lutte économique, j'entendais plutôt la lutte pour l'indépendance des agriculteurs qui sont un peu pris dans une...
Il y a ça aussi, bien sûr, ouais. Parce que il y a le problème des brevets. Toutes ces plantes-là, ce sont des plantes qui sont soumises à des brevets, qui sont des graines qui coûtent très, très, très cher. Et donc, on le voit dans des pays comme l'Inde et tout, où des petits paysans ont acheté notamment du riz ou du coton transgénique à des prix faramineux et n'ont pas eu les résultats, ils n'ont pas eu les récoltes qu'ils espéraient. Et ces personnes-là se sont endettées. Et on a vu chez les petits paysans indiens un drame énorme. Il y a plusieurs milliers de petits paysans indiens qui se sont suicidés parce qu'ils n'arrivaient pas à payer leurs dettes. Suite aux emprunts qu'ils avaient faits pour acheter leurs graines, quoi. Hein. Donc, évidemment, alors que dans ces pays-là, ils avaient tout ce qu'il fallait, quoi, en variété de riz, et qu'ils permettaient d'une année sur l'autre de reproduire leur riz d'une année sur l'autre. Et donc, quand ils rentrent dans ces logiques de brevet, ils ne peuvent plus. Chaque année, ils sont obligés de racheter les semences. Et s'ils n'ont pas la récolte qu'ils pensent avoir en mettant ces semences-là, pour eux, mais c'est fini, quoi. Mm-hmm. C'est fini. Donc pour ces gens-là, ils n'ont pas droit à l'erreur, quoi. Ils sont déjà tellement pauvres, ils sont déjà tellement fragiles que s'ils rentrent dans cette logique de brevet, ils sont perdus. Mais bon, je veux dire, c'est la même logique. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pas avoir la logique de Monsanto et de toutes ces boîtes qui mettent des brevets. Elles en ont rien à faire, des paysans. Eux, ce qu'elles veulent, c'est l'agro-industrie. C'est avoir des fermes énormes gérées par des multinationales qui exploitent des ouvriers à des salaires très très bas et qui font, qui plantent chaque année leurs brevets, leurs plantes transgéniques et autres pour faire de l'agro-industrie. Ils ont que faire du monde paysan, hein. Ils ont que faire. Franchement, c'est pas du tout leur souci, quoi.
Et si par exemple on veut soutenir un peu les faucheurs volontaires, qu'est-ce qu'on peut faire?
Déjà, soit on rejoint le mouvement des faucheurs volontaires, on regarde sur Internet, on trouve tout ce qu'il faut pour rejoindre le mouvement des faucheurs volontaires, ou alors surtout, on consomme autrement. On choisit de consommer, pas forcément que bio, hein, parce que bon, on trouve pas forcément tout le bio près de chez soi, mais on va dans les petits marchés, on essaye de favoriser tout ce qui est production locale, et on essaye de limiter la consommation de tous les produits industriels, quoi. On peut consommer beaucoup plus simplement, et ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher, quoi. Aussi.
D'accord, ben merci beaucoup.
Allez, merci, au revoir.
Un grand merci à Christine Tellen qui a bien voulu répondre à nos questions et qui nous a éclairé sur la désobéissance civique et la lutte anti-OGM. Désobéir dans le cadre d'une démarche citoyenne, c'est donc se battre pour le bien commun, qui n'est pas toujours, malheureusement, la finalité de la loi. Et cette lutte n'est pas seulement un droit, c'est aussi un devoir, inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'appeler à la révolte, mais plutôt de rappeler que les lois positives ne sont pas toujours l'expression fidèle, loin de là, du droit. Il faut alors chercher, en nous, ce droit, et le défendre face aux possibles errements de la loi. Hannah Arendt précise ainsi la différence entre la désobéissance tout court et la désobéissance civile, motivée par ce droit qui nous porte. Je cite « Il existe une différence essentielle entre le criminel qui prend soin de dissimuler à tous les regards ses actes répréhensibles et celui qui fait acte de désobéissance civile en défiant les autorités et s'institue lui-même porteur d'un autre droit. » Pour ceux qui veulent aller plus loin et en savoir davantage sur le mouvement des faucheurs volontaires, je conseille l'excellent livre intitulé « Faucheurs volontaires » chez les Dessinacteurs, que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies, c'est-à-dire à la parenthèse au lieu-dit. Merci d'avoir suivi cette émission. Pour finir, gardez à l'esprit cette citation d'Albert Jacquard « Les lois sont là pour protéger les libertés, mais elles ont souvent été obtenues par ceux qui ont osé transgresser les lois précédentes. » Allez, on se retrouve le mois prochain sur le thème, et cela sera tout particulièrement d'actualité,
de la politique.
L'universalité, l'universalité de la pensée philosophique du XXe siècle, l'universalité de la pensée philosophique du XXe siècle repose sur la controverse existante entre les individualités d'écriture et l'instinct surréaliste sous-jacent chez la plupart des auteurs, tout en respectant la linéarité de la pensée du monde occidental.
Oh la vache!
Philotage, la philosophie à tous les âges.
La philosophie, ça devrait plutôt être une ouverture sur le monde, se dire, voilà, la philosophie, c'est quelque chose d'ouvert, vous pouvez avoir toutes les opinions, donc profitez-en, dites ce que vous voulez.
Alors, est-ce que vous aimez ça, vous, la philosophie ?
J'aime parce que j'aime bien les histoires que tu racontes, j'aime bien parler, et surtout qu'on parle dans le micro.
Philotage, la philosophie à tous les âges.